Écho d'ici, écho d'ailleurs. Sophie Malibaud, Guillaume Munier.
Bonjour, bienvenue dans l'émission Écho d'ici, écho d'ailleurs à crise exceptionnelle, solution exceptionnelle. C'est le principe sur lequel repose l'initiative des Européens qui envisagent pour la première fois de l'histoire de l'Union de mutualiser la dette visant à compenser les effets de la crise sanitaire et économique liée au Covid-19. En cette fin de semaine, les dirigeants de l'UE se réunissent à Bruxelles pour mettre au point la riposte à la crise économique, tandis que les ministres des Finances et gouverneurs des banques centrales du G20 se concerte à distance sur un plan pour aider les pays du monde les plus fragilisés. Pour en parler, nous accueillons dans ce studio de RFI Louis-Nicolas Jandot d'Oxfam France, où il s'occupe de l'aide au développement et de la dette. Et pour commencer sur l'Europe, un spécialiste des finances publiques et de la politique européenne, Stéphane Sorel. Vous enseignez à l'Université Saint-Louis de Bruxelles et intervenez également dans le cadre du cycle des hautes études européennes de l'ENA à Paris. Bonjour Stéphane Sorel.
Bonjour Sophie Malibaud.
Alors vous êtes l'auteur d'un livre, Le budget de l'Union européenne, publié par la Documentation française. Un budget, ce ne sont pas que des chiffres, c'est l'ancrage d'une politique, c'est aussi ce qui permet d'avoir confiance dans l'avenir et peut-être de résister à la crise. C'est de cela aussi dont discutent en ce moment même les Européens à Bruxelles. Alors, est-ce que vous voulez tout d'abord, Stéphane Sorel, ajouter quelque chose à cette présentation ?
Non, cette présentation est très juste et vous avez raison de dire que le budget européen, ça doit être le reflet du projet européen. C'est cela que les chefs d'État et de gouvernement sont en train de décider aujourd'hui même.
Tout à fait. Alors, je voudrais entamer cet entretien par une citation. La faiblesse, c'est de se croire invincible. Elle provient d'une tribune de l'écrivain italien Roberto Saviano dans le journal Le Monde du 12 avril dernier. Dans ce texte, l'auteur italien écrit également ceci. Le virus a révélé l'hérésie d'une approche purement économique et managériale de la chose publique telle qu'elle se pratique dans un territoire très riche dans lequel le travail est un impératif et où la dimension individualiste est poussée à son paroxysme. Stéphane Sorel, est-ce que vous partagez ce constat dressé par un écrivain originaire de l'Italie du Sud ?
Oui, il perçoit les effets de la crise de manière extrêmement violente, extrêmement forte. Il en a un regard très acéré, très acerbe même. Mais il faut se projeter, voir qu'est-ce que l'Union européenne a fait, qu'est-ce qu'elle peut encore faire, quels sont les choix qui s'offrent à nous, de manière à surmonter cette crise et peut-être effectivement à se projeter avec des idées nouvelles, avec un changement d'échelle, un changement de trajectoire pour l'Union européenne.
Alors, ce qu'il met en exergue dans ce texte, Roberto Saviano, c'est ce dilemme posé par le virus, la santé des hommes et des femmes, d'un côté, et puis la santé de l'économie de l'autre. On ne réagit pas de la même façon dans toutes les régions du monde. Est-ce qu'en Europe, on a confiné trop tard, par exemple, pour en arriver au nombre de morts auxquels nous sommes arrivés aujourd'hui ?
Certains diront qu'on a confiné trop tard, d'autres qu'on a trop confiné. C'est une question d'équilibre. Des choix ont été faits face à l'inconnu, à l'incertitude, dans l'urgence. Et les États membres, après un temps de réaction les uns les autres, ont réussi à se coordonner malgré tout, à essayer de dessiner ensemble des réponses communes.
Ça a démarré par du repli sur soi.
Ça a démarré lentement, ça a démarré par l'urgence à laquelle chacun était confronté, prenant des décisions avec un manque de coordination au départ. Mais très rapidement, les discussions ont eu lieu entre les États membres. Ils ont essayé de dessiner, non pas une réponse unique, mais une forme de chemin commun.
On peut même évoquer une chose qui est en fait assez peu connue du grand public. C'est que, parce que c'est toujours facile d'avoir des jugements a posteriori, mais bon, à ce moment-là, au mois de janvier, après que les Chinois aient reconnu finalement être touchés par cette épidémie, en fait, à ce moment-là, les Européens ont été sollicités pour de l'aide à la Chine. Et finalement, on a fourni 52 tonnes d'équipements, de masques, de gants, de respirateurs artificiels. On a même aidé financièrement la Chine à bâtir des hôpitaux. Quel regard est-ce que vous posez là-dessus a posteriori ?
Oui, l'Union européenne, les États membres ont fait. Ils ont fait dans la discrétion, avec, encore une fois, une vraie incertitude sur quelles allaient être les conséquences de cette crise sur le territoire européen. C'est ce qui explique en grande partie, je crois, la discrétion avec laquelle les États et l'Union européenne ont réagi.
Oui, et alors à ce moment-là, le dilemme, c'était soit on enraye le plus vite possible cette crise, elle ne parvient pas jusqu'à nous, soit on se prémunit d'avance. Enfin, comment est-ce qu'on pouvait décider sur ce...
Oui, nos décideurs ont eu à faire des choix, ont eu à anticiper, essayer de concevoir quel allait être l'impact sur l'Union européenne dans son ensemble. Et là, on a vu les choses évoluer très vite, les discours évoluer très vite, parce que les événements eux-mêmes évoluaient très vite. Mais ce qui me semble important, c'est de bien voir que l'Union, au-delà du temps de réaction immédiat, a su dessiner une réponse à la crise qui a été sans précédent. Les ministres de l'économie et des finances ont mis sur la table, à travers différents instruments, près de 500 milliards d'euros pour répondre à cette crise. À travers, à la fois, le mécanisme européen de stabilité, à travers, pour donner un filet de sécurité aux États membres, à travers la Banque européenne d'investissement, pour créer un filet de sécurité pour les entreprises. Et puis également, ils n'ont pas oublié ceux qui étaient menacés par le chômage. Ils ont créé un instrument qui n'avait jamais été imaginé auparavant, de réassurance chômage, extrêmement important, 100 milliards d'euros, pour faire face aux dépenses additionnelles liées au chômage partiel mis en place par les différents États membres.
Vous parlez du dispositif sûr, c'est bien
exactement.
Ça.
Exactement.
Alors, est-ce que l'Europe a appris la leçon, finalement? La solidarité intereuropéenne, ce qu'on a vu sur la crise migratoire de 2015, ça n'a pas fonctionné, on n'y arrive toujours pas. Est-ce que face à cette crise sanitaire, on va assister à un changement, voire même presque révolutionnaire au niveau de cette... Si on parvient à mettre au point cette capacité d'endettement en commun?
Oui, c'est une proposition qui est extrêmement forte et qui bénéficie d'un effet de traction franco-allemand très puissant. L'idée, c'est effectivement, proposée par la Commission, de mettre 750 milliards d'euros sous la forme de subventions aux États membres, de prêts aux États membres, pour leur permettre de se relancer après le choc de la crise qui a été subie.
Mais deux fois plus de subventions que de prêts.
Oui, c'est en cela que c'est totalement nouveau. L'Union a déjà emprunté dans le passé, mais des sommes plus modestes, et avec une finalité unique, c'était de prêter aux États membres ou à des États tiers. Là, il s'agirait de faire en sorte qu'on ait des subventions, que la solidarité joue à plein. Solidarité entre les États membres, solidarité avec les territoires et les secteurs économiques les plus frappés, solidarité aussi avec ceux qui sont les plus vulnérables, soit parce qu'ils ont perdu leur emploi, soit parce qu'ils sont dans une situation de grande détresse et ont besoin d'un soutien de l'Union européenne. Solidarité enfin avec aussi le reste du monde à travers la politique de développement.
Oui, alors le premier pays bénéficiaire de cette aide, de ces subventions, ce devrait être l'Italie. On va partir tout de suite en Italie du Sud, avec le reportage de Cécile Debarge, notre correspondante en Sicile, que je vous propose d'écouter tout de suite.
Plus de deux mois après la fin de la phase 1 du confinement italien la plus drastique, la ville de Palerme a mis en place un nouveau système de soutien aux familles les plus fragiles. Cette aide financière doit les aider à faire les courses si besoin, mais aussi à payer le loyer ou les factures d'eau et d'électricité. Une décision qui intervient alors que le revenu d'urgence mis en place par le gouvernement italien prend fin, explique l'adjoint à la citoyenneté solidaire de la ville, Giuseppe Matina.
Selon les secteurs commerciaux, tout n'est pas reparti au même rythme et pour certains, c'est encore difficile. Et donc, il nous semble opportun de continuer au moins jusqu'à la fin de l'année à soutenir les familles en difficulté, notamment pour éviter que ça puisse permettre à la criminalité organisée d'entrer dans un système d'aide. C'est à l'État de ne laisser personne seul.
Pendant le confinement, la mairie a reçu près de 33 000 demandes d'aide pour les achats alimentaires et de première nécessité. 13 500 familles remplissaient les critères pour recevoir cette aide. Un chiffre important au regard des 675 000 habitants que compte la ville. Mais la fin du confinement n'a pas marqué une reprise normale de l'activité d'une partie de la population, aussi bien pour les travailleurs en règle que pour les travailleurs au noir, nombreux dans le sud de l'Italie. Giuseppe Matina.
Les signaux qui viennent fuori,
Les signaux que l'on observe, c'est qu'on a un système qui essaye de se substituer à l'État pour aider les familles, et surtout les plus fragiles, et ainsi d'obtenir quelque chose en échange. Et ça, on l'a observé chez les familles les plus faibles. Quelqu'un vient pour les aider et tente en même temps de s'approprier des forces vives, des bras. Ces familles ne sont pas si nombreuses, mais ce sont des cas qu'on a dû gérer.
Dans le quartier Zen de Palerme, l'un des plus populaires, une anecdote a défrayé la chronique. Début avril, au plus fort du confinement, le frère d'un chef mafieux, incarcéré pour trafic de drogue, a offert aux habitants dans le besoin des sacs de courses remplis de vivres. Une aide loin d'être désintéressée, explique Claudio Fava, le président de la commission d'enquête et de vigilance sur le phénomène mafieux et la corruption au sein de l'Assemblée régionale sicilienne.
Ils ne font pas du tout cela par esprit caritatif, pas du tout. Mais ça crée des rapports de dépendance. Leur contrôle se renforce. Ils prétendent aider pour ensuite demander un droit de péage et s'accaparer ce pourquoi ils ont fourni leur aide.
Cette aide alimentaire de la part de la criminalité organisée n'est que la pointe émergée de l'iceberg. Dans un moment de crise où les liquidités manquent fortement, la mafia est souvent la seule à disposer d'importantes sommes d'argent en espèces. La seule donc à proposer de prêter de l'argent en échange de taux d'intérêt exorbitants. C'est ce qu'on appelle l'usure. Claudio Fava.
Évidemment, l'usure a fait un retour en force, comme souvent dans ce genre de situation. Mais ce n'est pas qu'une question de prêt d'argent. C'est aussi l'opportunité d'infiltrer une activité, de s'accaparer une entreprise.
C'est la plus grosse inquiétude que la criminalité organisée puisse profiter de ce moment de crise pour infiltrer des entreprises, mais aussi des pans entiers de l'économie qui étaient encore relativement épargnés, explique le président de la commission d'enquête et de vigilance sur le phénomène mafieux et la corruption.
Certaines personnes se sont présentées avec de l'argent en cash, en disant « on peut vous aider ». Mais aider signifie « j'achète la moitié de ton activité ». Ou bien « j'achète toute ton activité ». Ou encore « je t'aide, mais ensuite je fais travailler qui je veux à l'intérieur ».
Rapidement, dès les premières semaines de la crise sanitaire, la commission d'enquête parlementaire régionale a diligenté une enquête approfondie sur les éventuelles infiltrations mafieuses dans le secteur de la santé et des fournitures médicales, qui représentent près de 100 milliards d'euros par an. Uniquement en Sicile.
Alors nous avons choisi ce reportage parce qu'il illustre deux choses. En Italie, le Sud va souffrir de la crise économique, alors que c'est au Nord que la crise sanitaire a sévi le plus gravement. Et c'est un peu le reflet de ce qui se passe aussi à l'échelle du monde. Et d'ailleurs, le fait de voir la pègre, les mafieux s'engouffrer dans la brèche, c'est aussi ce qu'on peut constater ailleurs, en Amérique latine par exemple. Nous y reviendrons plus tard. En tout cas, cela montre, Stéphane Sorel, cela montre l'urgence de la situation. Si l'on ne réagit pas très vite, la pauvreté risque d'affecter profondément notre société.
Oui, ce reportage est absolument excellent. Il montre effectivement l'urgence et il méritait d'être entendu par tous les chefs d'État et de gouvernement qui sont réunis à Bruxelles. Parce que cela montre quoi ? Cela montre que si on laisse les situations se déliter, si on laisse une situation s'enquister dans une bataille de chiffres, en oubliant la finalité première, la solidarité entre États membres, eh bien les conséquences, elles se traduiront non simplement en Italie, mais partout en Europe.
Oui, parce qu'il y a des pays européens eux-mêmes qui, dont l'industrie, dont les services dépendent totalement de la demande des autres pays d'Europe.
Oui, on décrit cette bataille du budget européen comme une bataille entre des pays que l'on qualifie de frugaux et des pays qui sont bénéficiaires.
Des frugaux qui sont des très riches parce que et voire radins.
Ils sont plus riches et ils versent au budget de l'Union européenne plus qu'ils ne reçoivent. Mais il ne faut pas oublier que aujourd'hui, aux Pays-Bas, il y a 2 millions d'emplois qui dépendent des exportations. Et les exportations sont à 70% en direction des autres pays de l'Union européenne. Cela montre une chose, c'est que l'intégrité du marché unique est absolument cruciale. C'est cela qui est en jeu aujourd'hui dans le débat sur le budget européen. Il ne s'agit pas simplement de s'interroger sur combien on doit verser à telle ou telle politique, mais de dessiner ensemble une réponse qui permette à l'Union européenne d'être le pôle de stabilité, de prospérité dont le monde a besoin.
Oui, parce que même chose, c'est la solidarité intereuropéenne, mais le marché européen est aussi une destination pour les produits africains. Je citerai quelques exemples. Les fèves de cacao, les exportations réalisées par l'Afrique dans ce domaine, c'est 65% sur le marché européen qu'elle débouche. L'industrie textile de l'Éthiopie ou du Kenya, les trois quarts des débouchés sont sur les marchés européens et américains, qui, on le sait, en ce moment, sont vraiment dans une situation où la consommation est mise à mal. Et puis si on prend aussi autre exemple, le secteur horticole, les fleurs fraîches coupées en Éthiopie, on enregistre déjà 11 millions de dollars de pertes. Ce sont 150 000 personnes menacées de licenciement, sans compter le tourisme également mis à mal, etc. Donc la bonne santé de l'économie européenne ne profite pas qu'aux Européens.
Oui, on est encore une fois une forme de pôle de stabilité, de prospérité, qui est indispensable au bon fonctionnement du monde, d'une certaine manière. La crise que nous allons traverser, elle est profonde, elle est sévère. La Commission anticipe une réduction du produit intérieur brut de l'Union européenne de 8,3%. C'est trois fois plus qu'après la crise de 2008. Si l'Union s'affaisse sur elle-même, si elle ne se donne pas les moyens, en investissant, de redresser son économie, de permettre à chacun de retrouver le chemin d'un emploi, eh bien, les conséquences, elles seront dramatiques en Europe, mais elles seront aussi extrêmement violentes pour le reste du monde, dans le cadre d'une économie qui est mondialisée, qui est globale.
Oui, justement, vous parlez d'économie mondialisée. Alors, on travaille à remettre la machine économique en route, mais il y a toujours eu les laissés pour compte de la mondialisation, les gens qui ne bénéficieront pas de ce type d'aide. Qu'est-ce que les Européens font pour les plus démunis en Europe, déjà ?
Les plus démunis en Europe, c'est 24 millions de personnes. C'est 5,6% de la population européenne. C'est considérable. Ce chiffre a eu tendance à réduire ces dernières années. Le pic avait été atteint en 2012, après la crise économique et financière de 2008-2010, où on avait atteint 10,2% de la population. Eh bien, il est absolument nécessaire que les programmes européens prévoient de lutter contre la pauvreté, de lutter pour l'inclusion sociale. C'est ce qui est fait à travers différents instruments. Le Fonds social européen, c'est 80 milliards d'euros sur une période de 7 ans. Et puis, pour ceux qui sont les plus démunis, eh bien, il y a l'enjeu de ce Fonds européen d'aide aux plus démunis qui permet à la fois d'apporter de l'aide alimentaire, de l'aide matérielle également, et puis de l'accompagnement pour retrouver le chemin d'une vie plus satisfaisante à travers des processus d'inclusion sociale et qui, ces financements, sont absolument cruciaux pour toutes les associations caritatives qui œuvrent en Europe.
Vous parliez tout à l'heure de par centaines de milliards d'euros sur le plan de relance. Ce fonds européen d'aide aux plus démunis, sur l'exercice 2014-2020, on n'était même pas à 4 milliards, on était à 3,8 milliards d'euros dans cet exercice budgétaire en train de se terminer. Est-ce que on est en train de négocier ? Est-ce qu'on va parvenir à doper ce fonds pour l'exercice prochain, qui est en train d'être négocié 2021-2027.
Oui, sur la période écoulée, c'est 500 millions d'euros par an sur l'ensemble de l'Union européenne. Ça peut apparaître modeste. En même temps, si vous interrogez les responsables des Restaurants du Cœur, du Secours populaire, du Secours catholique, ils vous diront l'importance que cela a pour mener à bien les actions sur le terrain. C'est absolument crucial. Évidemment, ça n'est pas le seul fonds qui est disponible pour accompagner, pour faciliter l'inclusion sociale. Celui-là s'adresse à ceux qui sont effectivement les plus démunis. Mais il y a aussi l'enjeu...
Vous ne dites pas qu'il n'est pas prévu de grossir l'enveloppe.
Je ne veux pas préempter les choix qui sont faits par les chefs d'État ou de gouvernement. L'enjeu, c'est à minima de la maintenir. Ce fonds a été régulièrement menacé. Pourquoi ? Parce que...
Mais il y aura beaucoup plus de monde à servir... Oui. Avec la crise actuelle.
Et c'est pour ça qu'il devra être complété, notamment par le Fonds social européen, qui visera aussi à favoriser l'inclusion sociale. Et qui, lui, sera singulièrement dopé pour la période à venir.
Alors, ces centaines de milliards, ces 750 milliards qui devraient être mis à disposition et permettre de relancer la machine économique, comment va-t-on les trouver ? Où va-t-on les trouver ?
Bien, c'est là où se situe la grande innovation. C'est-à-dire que l'Union va emprunter. L'Union va emprunter pour effectivement verser 500 milliards d'euros sous forme de subventions et 250 milliards d'euros sous forme de prêts, si les chefs d'État et de gouvernement s'accordent sur le chiffre proposé par la Commission. C'est une révolution. C'est quelque chose qui est radicalement nouveau. C'est un tabou qui est tombé. C'est une avancée de la construction européenne en termes de solidarité, si, encore une fois, les chefs d'État arrivent à dégager un accord sur ces bases.
Et quid de la conditionnalité? Est-ce qu'on va remettre des conditions très importantes, comme la Grèce, quand il y a eu le sauvetage de la Grèce, c'était très lourd, les demandes à l'adresse de ce pays étaient très, très dures à remplir. Est-ce que ça va être le cas pour les pays qui seront bénéficiaires de cette manne?
Non, il n'est pas question d'envisager de mettre les pays sous programme, comme ils l'ont été après la crise économique et financière de 2008-2010. Les conditionnalités, telles qu'elles sont aujourd'hui discutées, elles visent simplement à s'assurer que les fonds alloués par l'Union européenne soient bien destinés à la relance de l'économie. Puis il y a un autre type de conditionnalité qui est aujourd'hui discutée également, c'est celle liée à l'état de droit pour protéger les intérêts financiers de l'Union. Et là, ce ne sont pas évidemment les mêmes États qui sont en jeu dans cette question.
Donc les Européens sont confrontés à un accroissement de la pauvreté à l'intérieur même des frontières de l'Europe. Mais qu'en est-il de l'aide que l'Europe est capable de fournir à l'extérieur? Qu'en est-il de sa coopération étrangère? Très peu de pays arrivent à ce qui a été prévu dans les objectifs du millénaire. En pourcentage du PIB, ça devrait être 0,7%. Je crois que la Norvège y arrive. Très peu de pays européens arrivent à ce taux. Est-ce que la crise va plutôt pousser en faveur de cet objectif ou le rendre encore plus difficile?
Oui, je crois que la Commission sur ce point a été très claire dans sa proposition à la fin du mois de mai. Elle dit clairement que l'Union ne peut pas occulter les conséquences de cette crise dans le reste du monde et qu'elle doit renforcer son aide au développement avec une approche d'une certaine manière concentrique. On a des relations avec le reste du monde qui sont des relations avec notre voisinage immédiat en termes d'élargissement, le voisinage et puis la politique de développement. Eh bien, il est évident que l'accord qui doit être trouvé aujourd'hui ne peut pas se faire au sacrifice des moyens qui seront dévolus à la politique de développement. Et des réflexions sont en cours également sur l'architecture financière du développement en Europe, puisque l'Europe est le premier bailleur de fonds entre l'Union européenne et les États membres. Mais il faut s'assurer que les instruments dont on dispose, que ce soit au niveau européen ou au niveau national, soient correctement articulés pour donner le maximum d'efficacité à ces politiques.
Les Européens vont donc innover en matière de financement de la relance. Qu'est-ce qui empêche des pays du Sud d'aller sur le même type de dispositif, d'emprunter? Est-ce que la dette est une bonne chose finalement, ou est-ce qu'il ne faut pas redouter non plus le piège de la dette?
Mesurons bien que le tabou de la dette au niveau européen, c'est-à-dire la création d'une dette commune européenne, aura mis un temps extrêmement long à tomber. Et il aura fallu la violence de cette crise pour y parvenir. C'est finalement une étape supplémentaire dans une intégration européenne qui est déjà très avancée, où on a déjà beaucoup mis en commun et où on a notamment en commun le marché unique, dont l'intégrité est en jeu. Et c'est cet élément-là qui va permettre, je l'espère, à l'Union de faire ce pas en avant. De ce point de vue-là, il n'y a pas d'équivalent dans le monde en termes d'intégration régionale aussi poussée qu'en Europe. Nous allons vivre là une avancée, mais qui ne vient pas de nulle part, qui est le fruit d'une histoire.
Comment expliquer qu'on valorise de l'endettement en Europe et que l'endettement des pays très pauvres, très endettés, soit aussi décrié et les plonge dans une situation aussi problématique?
On n'est pas en train de valoriser l'endettement. On est en train de faire le constat qu'il y a un besoin massif d'investissement pour faire face à cette crise.
Pourquoi, pour les pays africains, on tolère un moratoire de 2 ans sur les remboursements de la dette et pas plus dans ces cas-là? C'est deux poids, deux mesures?
Non, on est dans des situations différentes. On prend des dispositions pour accompagner le mieux possible nos partenaires, pour faire en sorte de muscler notre politique. Ça ne passe pas nécessairement que par la question de la dette. L'enjeu, c'est véritablement, je crois, d'investir, d'essayer de se relancer par l'investissement.
On vient de l'entendre avec Stéphane Sorel, les dirigeants européens concentrent à présent toute leur énergie à la gestion des conséquences de la crise sanitaire. Comment juguler la crise économique qui en découle? Mais le Covid-19 continue de circuler. Il y a des inquiétudes face à une éventuelle deuxième vague de contamination en Europe même. Et il y a surtout des régions du monde où l'épidémie n'a pas encore atteint son pic, en Asie du Sud, aux États-Unis, en Amérique latine. Et puis enfin, un continent, l'Afrique, où le coronavirus progresse, mais de façon beaucoup plus circonscrite qu'ailleurs dans le monde, ce qui n'empêche pas ces pays africains de subir d'ores et déjà le contre-coup économique de la crise mondiale. Alors comment gérer à la fois l'urgence sanitaire et prévenir l'effondrement des économies les plus fragilisées? On en parle avec Louis-Nicolas Jandot. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargé de plaidoyer pour l'aide publique au développement à Oxfam France et chargé des affaires de dette également. Alors, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui qu'on assiste à une prise de conscience du risque encouru par les populations les plus pauvres qui, si elles échappent, si elles parviennent à échapper au Covid-19, ne seraient pas épargnées en revanche par la crise économique et sociale qui se profile?
C'est une question quand même assez compliquée pour commencer. Une chose est sûre, c'est que ça dépend des échelons, on va dire. Au niveau onusien, aujourd'hui, il y a une prise de conscience, il y a énormément de travaux qui ont été menés, il y a des estimations très précises qui ont été réalisées au niveau onusien, que ce soit sur des régions spécifiques comme l'Afrique ou au niveau global pour réfléchir sur la réponse qu'il faut pour les pays en développement en général. Ensuite, est-ce qu'il y a une prise de conscience des pays les plus développés vis-à-vis du risque vers les pays les moins développés? J'en suis pas si sûr. On a mentionné dans une première partie de l'émission comme quoi il y avait des réflexions au niveau européen pour des réponses jamais vues jusqu'ici, cette mutualisation de la dette, etc. Pour l'instant, en ce qui concerne la réponse, le soutien du Nord vers les pays en développement, on voit qu'on reste sur des mécanismes très traditionnels et même largement insuffisant jusqu'ici.
Il y a un grand pays émergent où la gestion de la crise apparaît particulièrement chaotique. C'est le Brésil. Du fait d'une sorte de déni de la part de son président Jair Bolsonaro, le Brésil a franchi le cap des 2 millions de cas de contamination, le deuxième bilan le plus élevé du monde, derrière les États-Unis, avec près de 80 000 morts. Des chiffres qui sont d'ailleurs considérés comme largement inférieurs à la réalité par la communauté scientifique, en raison de l'insuffisance des tests. Jair Bolsonaro a voulu maintenir l'économie en marche à tout prix, mais aujourd'hui tous les voyants sont au rouge, chômage, précarité, endettement. Alors je vous propose tout de suite d'entendre le reportage de notre correspondante Sara Cozzolino au Brésil.
On ne peut pas seulement se préoccuper des conséquences du virus. La vie continue, le Brésil doit produire, on doit faire tourner l'économie.
Atteint du Covid-19, reclus dans son palais à Brasilia, le président continue de répéter que les activités économiques doivent reprendre. Une attitude dangereuse selon l'économiste Monica De Bol, professeure à l'université Johns Hopkins.
Après tous ces mois, cette fausse séparation entre santé et économie continue d'exister. Alors qu'en réalité, c'est une crise économique qui vient d'une crise sanitaire. Elles sont inséparables.
Malgré un revenu d'urgence d'une centaine d'euros par mois accordé à 50 millions de Brésiliens qui travaillent dans le secteur informel, la pandémie va aggraver fortement les inégalités.
Avant la pandémie, le Brésil était le seul pays qui avait vu une augmentation de l'extrême pauvreté de 50% par rapport à la situation avant la récession de 2015. Avec la pandémie, il y a encore une augmentation brutale de l'extrême pauvreté dans le pays.
Baisse d'activité et chômage ont poussé un grand nombre de Brésiliens à prendre des risques et se tourner vers le secteur de la livraison. Selma Venko, sociologue du travail et professeure à l'université de Campinas, ne voit pas d'un bon œil ce phénomène d'ubérisation.
Actuellement, le gouvernement de Bolsonaro a secouru les grandes entreprises en injectant de grandes fortunes pour les sauver. Mais de l'autre côté, il n'y a eu aucune aide pour les petites structures qui ont dû mettre la clé sous la porte. Donc je pense que l'ubérisation va devenir une réalité commune à un grand nombre de travailleurs et selon moi, la population noire sera la plus affectée.
Tous les experts rappellent que l'économie brésilienne se portait déjà mal avant la pandémie. Renato Fragelli est professeur d'économie à la Fondation Getúlio Vargas de Rio de Janeiro.
Quand la pandémie est arrivée, l'économie brésilienne était encore en train de surmonter la profonde récession subie dans les années 2015-2016, qui a alors réduit le PIB de 6,8%, du jamais vu dans l'histoire brésilienne. Avant l'arrivée du Covid-19, les prévisions de croissance du PIB pour 2020 étaient de 2%. La prévision est aujourd'hui d'une chute de 6%.
Le professeur souligne qu'il faudra de profondes réformes pour que l'économie reprenne une croissance stable. Selon l'ONU, 14 millions de Brésiliens pourraient tomber dans la pauvreté cette année à cause de la pandémie.
Alors c'est difficile, la visibilité à ce stade, cette estimation onusienne, 14 millions de nouveaux pauvres dans un seul pays, déjà très marqué par les inégalités sociales. Qu'est-ce que cela vous inspire ?
D'une certaine façon, ça illustre les difficultés face à laquelle nous confronte cette crise. D'une certaine façon, on voit qu'on réfléchit déjà ici, en France, en Europe, au monde d'après. C'est une expression qu'on a vu énormément revenir, alors que dans le même temps, on assiste à une détérioration terrible de la situation de nombreux pays et de la population de ces pays. On ne parle pas simplement de la situation économique du pays comme une sorte de grande chimère, mais vraiment comme la vie quotidienne des gens. Vous mentionnez ce chiffre des Nations Unies de 14 millions de personnes en plus qui sombreraient dans l'extrême pauvreté au Brésil. C'est une réalité. Ça ne concerne d'ailleurs pas que le Brésil. Une étude des Nations Unies allait plus loin en avançant le chiffre de 500 millions de personnes à travers le monde. Donc, qui est cohérent avec cette détérioration au Brésil.
En même temps, je me rappelle quand Oxfam a sorti un rapport, à un moment donné, on était au pire du confinement, les réactions étaient assez négatives. Notamment, j'ai pu voir des réactions de nos auditeurs en Afrique qui disaient « Mais arrêtez de nous prédire le pire, on va peut-être trouver des solutions ».
Oui, évidemment. Après, je suis complètement d'accord que d'ailleurs, on craignait énormément une crise sanitaire et tout le monde s'attendait à une crise sanitaire désastreuse en Afrique. On voit que pour l'instant, elle est plutôt bien maîtrisée. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a très clairement des leçons à apprendre vis-à-vis de l'Afrique particulièrement, mais du Sud. Pour nous, pays du Nord, pays plus riches, pays plus développés. Je pense par exemple simplement à la prise en compte plus rapide de l'arrivée du virus, les mesures de restriction de déplacement.
On ne sait pas vraiment, d'un point de vue scientifique, pourquoi en Afrique, vraiment, le virus semble presque moins contagieux, ou alors, disons, circonscrit d'une certaine façon. Mais vous pensez que c'est quand même à mettre au crédit d'une certaine amélioration de la gouvernance de ces pays, et ou aussi d'une expérience de ces pays en ce qui concerne les crises sanitaires, puisque l'Afrique a connu Ebola, et est-ce que finalement on a tiré des leçons ?
Évidemment, il y a une expérience qui est réelle et qui existe. Le contrôle aux aéroports, par exemple, dans certains pays d'Afrique, était quelque chose de très développé avant l'apparition du coronavirus sur ce continent, et même avant l'apparition du coronavirus tout court. En ce qui concerne la gouvernance, très difficile de se prononcer si globalement, mais une chose est sûre, un constat est simple, c'est que des mesures pour limiter la propagation du virus ont été prises beaucoup plus tôt à l'échelle temporelle du continent que par exemple à l'échelle temporelle de l'apparition du virus en Europe, où on voit que le confinement a tardé à venir dans certains pays. On voit que dans certains pays riches comme les États-Unis, il n'est d'ailleurs jamais réellement venu. Et donc, oui, il y a quand même une prise en compte très rapide du virus, ce qui a sans doute permis d'éviter une détérioration trop rapide de la surcharge des systèmes de santé qui sont d'ailleurs par contre encore aujourd'hui très faibles.
Certains ont également critiqué aussi le confinement dans certains endroits parce que quand on n'a pas sous les yeux la gravité de la situation, c'est difficile de comprendre pourquoi arrêter le moteur de l'économie.
Oui, c'est toujours des mesures compliquées à prendre pour les dirigeants.
Etc. Ça a été parfois considéré comme une sorte de suivisme par rapport aux Européens. Mais c'était plutôt bénéfique, vous diriez ?
Ce qui est sûr, c'est que on voit aujourd'hui en Afrique que la crise sanitaire, purement sanitaire, a été moins importante que ce qu'on a pu connaître en Europe et ce qu'on peut connaître aujourd'hui aux États-Unis. Donc, ce qui est sûr, c'est que on peut pas dire que ça a été négatif d'un point de vue sanitaire. D'un point de vue économique, évidemment, on est face à une crise économique dans tous les cas désastreuse partout. Il ne faut pas faire un constat, dire que tel pays s'en sort mieux qu'un autre. Économiquement, on voit qu'on est face à dans un monde globalisé. En l'espace de 6 mois, on a un virus qui s'est propagé absolument partout à travers la planète.
Et Louis-Nicolas Jandeau, je voudrais faire référence à ce point commun qu'il y a finalement entre un certain nombre de pays en développement et même émergents comme le Brésil et l'Afrique, c'est la très grosse proportion au sein des populations de gens qui vivent de petits boulots dans le secteur informel. Alors sur le continent africain, il y a eu des estimations par la commission économique onusienne. 60% des hommes, 75% des femmes travaillent dans ce circuit de l'économie parallèle et donc particulièrement vulnérable. Ça, c'est un point commun. Il va falloir répondre à cette situation.
Oui, en effet, c'est de toute évidence les principales victimes de la crise économique dans ces pays. C'est un désastre dans certains pays. On voit par exemple au niveau du Brésil qu'on voit apparaître un nouveau foyer de famine au Brésil, ce qui était complètement inattendu, car c'est les populations les plus pauvres qui vivent énormément du secteur informel, qui se retrouvent coupés d'une partie immense de leurs revenus pendant ces périodes de restrictions de déplacement, etc. Et ce qui explique qu'aujourd'hui, on atteint des chiffres de potentielle chute dans la famine dans des pays qui jusqu'ici étaient plutôt préservés, comme le Brésil, l'Afrique du Sud ou l'Inde.
Alors restons en Afrique, nous partons au Togo avec un reportage de notre correspondant Peter Dogbe, au Togo où les autorités ont trouvé moyen d'aider provisoirement les plus démunis au plus fort de la crise.
Habillée revendeuse à Agouel, détient un petit maquis où elle sert à manger. Dès l'annonce de la pandémie au coronavirus et les mesures d'urgence annoncées, elle arrête toute activité et se cloue à la maison. Elle a dû avoir recours au programme Novici.
On a bénéficié 6125 par semaine. Donc pour les retraits, ça revenait à 6800 ou bien 6900 fois 2 dans le mois. Donc avec ça, ça nous a permis de faire des petits ravitaillements pour pouvoir subvenir aux petits besoins des enfants qui étaient encore à la maison.
Novici, littéralement enlevé, signifie solidarité. Il est un programme initié par le gouvernement. Il assure un transfert monétaire direct aux ménages ayant perdu tout ou partie de leurs revenus à cause de l'impact de la pandémie de la COVID-19. Pour avoir accès, il faut être togolais, avoir 18 ans et plus, disposer de sa carte d'électeur et exercer dans l'une des activités retenues touchées par la COVID-19. Les modalités de paiement ont été définies suivant un barème mensuel de 12 500 francs CFA, environ 20 euros pour les femmes et 10 500, soit 16 euros pour les hommes. Manou est cuisinier, conducteur de taxi moto par moment, il n'a pas sa carte d'électeur et ne comprend pas pourquoi en tant que citoyen, il ne peut pas avoir accès à cet appui.
Je n'ai pas bénéficié.
Et pourquoi ?
Non, ce que je pense, je n'ai rien compris là-bas. C'est ça qui me choque.
Pourquoi la carte d'électeur est un critère, selon Mazalo Katanga, directrice de l'Agence nationale d'appui au développement à la base, le Togo n'a pas encore un registre social unique.
Vous savez, la carte d'électeur, on l'a à 0 franc, alors que la carte nationale d'identité, c'est payant. Et donc, ça fait que ceux qui ont plus de cartes d'électeur sont plus nombreux dans notre pays que ceux qui disposent des cartes nationales d'identité. C'était pour atteindre la cible qu'on a dû passer par le fichier électoral parce qu'on se disait c'est cette base de données qui est la plus fournie qui nous rendrait plus service par rapport à nos visites.
Plus d'un million de personnes se sont fait inscrire sur la plateforme, dont 566 567 personnes ont bénéficié des transferts monétaires. Novici a été suspendu 2 mois après, dès que le couvre-feu et le bouclage des villes ont été levés. Selon le gouvernement, il sera réorienté dans les cantons les plus vulnérables, affectés par la pandémie.
Alors voici une initiative circonscrite dans le temps, peut-être imparfaite, notre correspondant l'a fait remarquer, mais d'un autre côté, c'est de l'inédit, ça. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ce que je trouve particulièrement intéressant, ça reflète un peu ce qu'on mentionnait juste avant le reportage, c'est que ça souligne l'importance de soutenir le secteur informel, qui est vraiment un secteur économique majeur en Afrique particulièrement. Et au Togo, on voit que les gouvernements ont réfléchi à comment aider au mieux la population la plus pauvre et la population la plus, on va dire, victime, ou tout du moins qui pouvait être victime des mesures prises pour faire face au Covid et potentiellement de la récession économique qui va, et on le sait, qui va arriver dans les semaines, mois qui viennent.
Le secteur informel, le fait qu'il ait une telle proportion, une telle importance, parfois 80% de l'économie de certains pays, on n'a pas beaucoup progressé tout de même sur le long terme concernant ce sujet. Qui dit secteur informel dit pas d'imposition possible, pas de revenus non plus, et une énorme précarité.
Oui, en effet, c'est une certitude qu'il y a une précarité de ces populations, particulièrement dans une situation comme celle-ci, où on voit par exemple les petits marchands, les producteurs, etc., qui se retrouvent du jour au lendemain sans la moindre source de revenus. Par conséquent, on a récemment publié Oxfam un rapport qui s'intitulait le virus de la faim, où on souligne comme quoi au plus 12 000 personnes pourraient mourir de faim d'ici la fin de l'année. Donc, ce qui est vraiment un chiffre titanesque et ce qui montre les difficultés qu'on va connaître dans les semaines et mois qui viennent en conséquence de cette crise économique désastreuse. Et ça souligne également l'importance de soutenir au plus vite les pays en développement par des mesures inédites.
Parce que il y a aussi cette structure de l'économie mondialisée qui fait par exemple que l'Europe, c'est un débouché énorme pour nombre de productions africaines. Je parle du textile dans l'Afrique de l'Est, beaucoup de productions, le coton, café, thé, cacao, etc. Toutes ces productions sont en baisse de revenus directs pour les petits producteurs. Donc pas seulement dans l'informel, mais aussi des emplois tout à fait classique. Alors, comment venir en aide à ces populations? Je crois que la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, la CNUSED, parle de milliards d'euros, de dollars à mettre sur la table si on veut éviter une catastrophe majeure.
Oui, en effet, la CNUSED a assez rapidement, dès le mois d'avril, tenté d'estimer les sommes nécessaires pour faire face à la crise dans les pays en développement. Donc c'est en tout 2 500 milliards de dollars qui sont nécessaires, dont 1 000 milliards d'annulation de dette, 1 000 milliards d'injections de droits de tirage spéciaux du FMI qui sont un système de création monétaire et 500 milliards d'aides supplémentaires au développement pour soutenir les systèmes de santé des pays en développement. C'est des sommes qui sont en effet titanesques, il faut le dire.
Donc il s'agit de pallier au manque de liquidité.
C'est ça. En effet, la crise, comme l'a dit la directrice du FMI, les pays en développement ont connu leur pire fuite de liquidité depuis toujours. On n'a jamais enregistré une
telle fuite. Bien pire que la crise de 2008.
Tout à fait. Dans les pays en développement, c'est réellement une catastrophe. Vous mentionnez tout à l'heure les matières premières qui se sont effondrées, évidemment le pétrole, etc.
Sauf l'or.
Oui, comme souvent d'ailleurs en période de crise. Mais en effet, on voit que des pays, particulièrement en Afrique, mais également en Amérique du Sud, qui sont très dépendants d'une seule matière première, se retrouvent dans des situations catastrophiques. Je pense au Tchad, où là-bas, le pétrole est majeur pour l'économie du pays. Et avec la chute du prix du pétrole, ça a été eu par conséquence de creuser un trou énorme dans le budget de l'État, au moment où ils ont le plus besoin d'argent à injecter dans leur système de santé, etc.
Et alors, ce week-end, pour évoquer donc la réponse internationale à apporter à la crise, les ministres des Finances du G20 et les gouverneurs de banques centrales se réunissent, réunion virtuelle, visioconférence sous la présidence saoudienne. Que faut-il attendre de ce rendez-vous virtuel, des résultats concrets?
Ça m'étonnerait qu'on ait, en toute objectivité, une grosse annonce suite à cette réunion. L'objet de la réunion centrale, on va dire, pour les pays en développement, c'est cette discussion autour du moratoire qui a été décidé sur les remboursements de dettes pour un peu plus de 70 pays en développement. Et l'objectif, c'est de faire un point d'étape. Sauf que le constat est simple, ce moratoire va s'avérer totalement insuffisant. Tout d'abord parce que c'est seulement les créanciers bilatéraux qui sont concernés, pas les créanciers privés ni même les créanciers multilatéraux. Et aussi parce qu'on parle simplement d'une suspension des remboursements de dettes. Donc on parle d'une petite part de remboursement de dettes. Et en plus, une suspension, ça veut dire que d'ici 3 ans, à nouveau, ces sommes qui n'ont pas été payées cette année devront être payées. Et donc ça va encore plus augmenter la part des remboursements de dettes d'ici 3 ans. Sauf que, est-ce qu'on peut consciemment penser que toutes les conséquences de la crise seront effacées d'ici 3 ans dans les pays en développement et qui seront
à même... Il peut y avoir un moratoire sur le moratoire.
Le G20 est en discussion et c'est là-dessus que repose la majeure partie de ces discussions, c'est de savoir un peu quelle suite à donner à ce moratoire, est-ce qu'il va falloir le prolonger, etc.
Mais Louis-Nicolas Jandot, je voudrais faire référence à une tribune qui est parue dans Le Monde, qui est signée par Oxfam ainsi que quelques autres ONG, tribune parue juste avant ce G20, et qui fait remarquer que sur les 73 pays éligibles, donc les pays aux plus bas revenus et qui pourraient bénéficier de ce moratoire, en fait, il y en a seulement 36 pays qui demandent cette suspension pour un total de quelque 8 milliards de dollars de dettes, alors qu'en fait, l'initiative pouvait permettre de reporter pour 14 milliards, enfin. Donc cette initiative, elle n'est même... Il n'y a pas de répondant. Comment l'expliquer ?
Alors, déjà, c'est 36 pays qui ont demandé cette suspension de la dette. Tout d'abord, bon, il y a un dossier à déposer, etc. C'est quand même un processus pas assez long terme. Et deuxièmement, et la raison principale...
Oui, mais c'est qu'il y a urgence. Donc,
oui, tout à fait. Mais il y a une réelle crainte des pays en développement, et particulièrement des pays les plus pauvres, de potentiellement se retrouver coupés du marché financier, parce que on voit que certaines agences de notation, d'ailleurs qu'une seule, Moody's pour l'instant, a d'ores et déjà menacé de diminuer la note de certains pays qui feraient l'objet de ce mécanisme mis en place par le G20.
Oui, c'est déjà le cas pour le Cameroun, je crois.
C'est ça, tout à fait. Ce qui explique que certains pays ont très peur par la suite. Dans tous les cas, ils auront besoin d'investissement dans les années à venir. Et donc, s'ils se retrouvent avec des conditions d'emprunt encore pires que ce qu'ils connaissent déjà, auprès de créanciers privés par exemple, ça va les mettre dans des situations de remboursement de dette bien plus catastrophiques. On voit que les taux d'intérêt aujourd'hui auprès des créanciers privés de certains pays d'Afrique sont largement supérieurs à 7%, ce qui est titanesque, alors que nous, par exemple, en France, on se félicite d'avoir des records de taux d'intérêt extrêmement bas pour nos emprunts,
oui,
proches de 0%.
Aux États-Unis, dans toute l'Europe, les taux sont extrêmement bas, effectivement.
Tout à fait. C'est pour ça qu'on est dans une situation complètement paradoxale, et ce qui explique qu'il faut un soutien très important au niveau des pays en développement, et c'est aussi le rôle des pays les plus riches d'agir vis-à-vis des créanciers privés, mais aussi des agences
mais
de notation.
Mais agir comment ? Parce que il y a quand même près de la moitié des obligations de ces pays qui sont détenues par des créanciers privés. Les créanciers privés, ils sont libres de mettre leurs capitaux où ils veulent.
Eh ben, pas nécessairement. On peut contraindre juridiquement ces créanciers privés à minima respecter le moratoire, potentiellement si des mesures d'annulation sont prises, à aller au-delà. Et nous, ça nous paraît important, enfin, entre guillemets, de sous-estimer le pouvoir public, ça nous paraît un peu absurde parce que c'est s'échapper de sa responsabilité. L'État français doit, et le président Macron l'a bien fait au niveau du G20, à pousser pour ce moratoire, il faut maintenant faire de même au niveau des créanciers privés. C'est pas normal que certains créanciers privés profitent de la crise pour mettre un peu plus à terre les pays en développement. Et donc c'est aussi le rôle d'État développer, qu'on importante voix sur la scène internationale, de pousser et de contraindre les créanciers privés.
Et dans quel cadre vous imaginez ce type d'initiative ou de démarche ?
Ce qui est évident, c'est que la crise telle qu'on la connaît aujourd'hui, la crise de la dette particulièrement, nous oblige à réfléchir différemment que ce qu'on a toujours fait. La composition de la dette en Afrique, je vais prendre l'Afrique, hein, c'est l'exemple le plus concret, a énormément changé depuis 15 ans. On a vu des nouveaux créanciers bilatéraux apparaître, comme la Chine, qui a désormais un poids énorme. C'est plus de 15% de la totalité des dettes en Afrique, mais également des créanciers privés qui se sont énormément développés dans cette région. Par conséquent, des institutions, des instances qui existaient, comme le Club de Paris, qui sont, au fond, les anciens créanciers n'a plus lieu d'être. Et il faut réfléchir à un mécanisme indépendant d'allègement des dettes, potentiellement sous l'égide de l'ONU, où les créanciers et les pays endettés seraient sur une sorte de pied d'égalité pour renégocier les dettes.
Merci beaucoup, parce qu'on arrive au terme de cette émission. On verra les solutions qui peuvent être mises en place dans les mois qui viennent, car il y a urgence, on l'a bien compris. Merci à vous, Louis-Nicolas Jandot, pour cet éclairage. Merci à Stéphane Sorel, venu nous parler de la riposte européenne à la crise. On remercie également Cécile Debarge, Peter Dogbé et Sarah Cozzolino pour leur reportage en Italie, au Togo et au Brésil. Et puis bien sûr Guillaume Munier pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs.
Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI.